Bordeaux, écoutez, vous avez la parole.
Bonjour les tout bordonautes. Ça y est, l'heure de la rentrée a sonné. On est bien dehors là. On est devant le moulin de Rouillac à Canéjean. Il fait beau. On est quand même le 17 octobre, mais le ciel est bleu. L'heure de la rentrée a sonné pour l'équipe des Micros d'Argent. Même si l'été est loin derrière nous, mais enfin bon, je disais qu'il faisait beau. Nous espérons que vous avez bien profité de cet été et que vous êtes prêts à nous suivre pour une deuxième saison qui s'annonce riche en pépites radio.
Alors, qui dit rentrée dit présentation. Alors, les Micros d'Argent, qu'est-ce que c'est ?
Eh bien, comme vous le savez sans doute, c'est une chouette équipe aux cheveux poivre et sel de l'accorderie Canéjean et Pays des Graves. Des journalistes en herbe
qui, avec l'aide de Laurent et de la web radio toutbordeaux.net, préparent et animent des émissions radio comme des pros.
Choix des sujets et des invités, conférences de rédaction, enregistrement en studio ou sur le terrain, apprentissage de la technique, jargon journalistique, il n'y a pas d'âge pour se lancer des défis et acquérir de nouvelles compétences. Et ça se passe très bien, toujours dans la bonne humeur.
Pour cette première émission, nous vous proposons une balade bucolique sous les chênes, les aulnes et les frênes au fil de l'eau bourde pour vous révéler les secrets du moulin de Rouillac à Canéjean en compagnie de Monsieur Mercier et Madame Mercier.
Passionnés d'histoire, mémoire de la commune. Les plus fidèles d'entre vous vont sans doute d'ailleurs reconnaître la voix de Monsieur Mercier et peut-être de Madame aussi. Nous les avons déjà rencontrés pour une première balade au cœur du patrimoine et de l'histoire du Canéjean. Cette pépite d'ailleurs est toujours disponible sur toutbordeaux.net. Allez, c'est parti.
Suivez le guide. Bonne visite à tous.
Bonjour Monsieur et Madame Mercier.
Bonjour.
Bonjour messieurs dames.
Nous nous dirigeons donc vers le moulin. Nous suivons Bernard qui a la clé et qui va nous ouvrir le moulin.
Je tiens la clé dans la main et on va essayer de réussir à ouvrir la porte du moulin. Voilà, on s'en approche et c'est tout de suite. Alors, voilà. On sent bien que la porte est ouverte. On peut rentrer maintenant. Voilà. Oh. Je vais juste allumer la lumière un peu pour qu'on se voit et qu'on s'entende mieux. J'arrive.
Le moulin de Rouillac a été construit au XIIIe siècle, monsieur Mercier.
C'est la période où on a construit beaucoup de moulins. Sur l'eau bourde, il y a 20 moulins, sur une rivière qui n'est pas très longue. Hein.
Qui va de Canéjean
De Sestas à la Garonne à Bordeaux.
Alors, il est construit sur un bief de l'eau bourde, ce moulin.
Pour faire passer l'eau dans le moulin.
Oui. Mais alors le bief, c'est en fait, moi je ne sais pas trop ce que c'est qu'un bief, et peut-être que nos auditeurs ne le savent pas vraiment.
Alors quand on construit un moulin sur une rivière, si on veut une chute, on doit faire un passage, un barrage sur le cours de la rivière et détourner pour faire une voie d'eau qui elle est horizontale et atterrit jusque dans le moulin.
Alors en fait, sur ces 20 moulins, il y en a combien qui ont été restaurés ? Est-ce que vous le savez ? Parce que là, le moulin de Rouillac a été restauré, mais est-ce que les autres sont en état ou...
Alors, ils ne sont pas tous en état. Il y en a quelques-uns qui sont encore debout, mais beaucoup ont disparu. À Canéjean, il y a eu 3 moulins, mais il n'y en a plus qu'un dont on est sûr l'existence.
Qui appartient le moulin de Rouillac ? Il est rattaché à quoi ? Au château ?
Aujourd'hui, il appartient à la commune.
Avant d'appartenir à la commune, il a eu pas mal de... Il a eu des propriétaires différents.
Il a eu plusieurs propriétaires. Un des plus célèbres, c'est le baron Haussmann. Mm-hmm. Il dépendait quand même de Rouillac, parce que c'était une terre noble, et un noble qui avait un château se devait aussi d'avoir un moulin, qui était un peu une source de revenus, parce que les gens qui venaient faire moudre leur blé, ben, ils en laissaient un petit peu pour le paiement.
Le baron Haussmann, il habitait Paris pourtant, non ?
Non, le baron Haussmann a habité Paris, mais il a habité aussi un peu à Rouillac et beaucoup au château de Sestas.
On entend l'eau là-bas
on
et on va peut-être
un peu
aller
plus.
Voir.
On va s'approcher de la chute du moulin. Et on va comme ça entendre un petit peu
cette chute d'eau en ouvrant une porte là qui nous donne directement sur la déversoir. Et ça va permettre.
Ah oui, on est sûr.
C'est vraiment la chute du Niagara sur le sur l'eau bourde de Canéjan. Bon, maintenant on va peut-être s'écarter un petit peu de ce lieu parce que le bruit de fond est très impressionnant, mais c'est peut-être pour la radio, c'est un petit peu difficile. Alors on va s'écarter un peu pour sortir du moulin et continuer de parler de toute la richesse de ce lieu.
Bon, nous nous approchons d'une table, on est donc sous les arbres à côté du moulin. Nous allons nous installer pour poursuivre notre conversation. Monsieur Mercier, est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les aménagements que le baron Haussmann a fait par rapport au moulin de Rouliac ?
Alors, le baron Haussmann avait deux châteaux, celui de Rouliac et l'autre de La Pelette, qui est à Cestas, voilà. Et il a voulu faire remonter l'eau dans ces deux châteaux, à la fois pour des raisons d'utilisation économique, mais aussi pour enjoliver un petit peu le lieu où il habitait. Alors, le baron Haussmann a fait poser des tuyaux jusqu'au château d'eau, qui lui est sur la propriété.
J'avais lu que c'était la propriété de Mademoiselle de la Harpe, ou alors je confonds dans ces...
Si. Non, oui, parce que Mademoiselle de la Harpe est devenue Madame Haussmann.
Ah,
voilà.
Oui.
Voilà. Mais alors après, on ne voit pas beaucoup de traces des activités de Madame de la Harpe. D'accord. Par contre, on attribue au baron Haussmann beaucoup de choses qu'il a faites, d'ailleurs.
Alors, au départ, c'était quand même un moulin qui était fait pour la farine, enfin pour faire.
Oui, alors,
de la farine.
Si vous voulez, oui, c'était un moulin pour une meunerie, presque jusqu'à la fin, à peu près jusque peut-être à la guerre de 14-18. Et après, les grands moulins ont tué les petits, et ce qui fait qu'on n'a plus fait de farine dans ces petits moulins.
Et dans les années 50, le moulin a eu une autre activité encore.
Alors, dans les années 50, il y a un monsieur qui habitait à Canéjan et qui vendait du bois de chauffage. Alors, il utilisait le moulin pour mettre à la bonne taille les bûches qu'il avait portées, oui. Et donc, il les coupait dans le moulin et ensuite, il les emportait, il les livrait à Bordeaux, pour la plupart.
D'accord. Moi, j'ai vu également c'est des photos, hein, je crois, de barques sur la rivière qui est derrière nous, sur l'eau bourde, et on m'avait parlé aussi d'une gare.
Le moulin a servi pour une petite navigation fluviale. Mmh. Ici, enfin, au début, on n'y a pas cru. On a découvert un jour sur un plan cadastral qu'il y avait une gare ici. Alors, on s'est demandé qu'est-ce que ça devait faire cette gare. Il n'y avait pas de projet de passage de train. Et finalement, c'est quelqu'un qui a eu la bonne idée d'ouvrir un dictionnaire pour chercher ce qu'on racontait à gare. Et là, il a appris qu'il y a des gares sur les voies de chemin de fer, mais aussi des gares sur les cours d'eau.
C'était le plan cadastral vers 1844 à peu près. Hein, c'est dans cette période.
C'est dans cette période, oui.
Et en fait, ces embarcations, c'était pour la détente ou c'était pour amener bois ?
Je pense que la première utilisation, c'était utilitaire.
Oui.
C'est-à-dire que des gens chargeaient leur blé là où ils habitaient et venaient et le portaient ici.
Alors à l'époque, l'énergie de la rivière, si on peut dire, elle était utilisée par les blanchisseuses. Mais est-ce que l'eau était si claire que ça finalement ? Parce que les blanchisseuses venaient rincer leur linge.
Au début du XXe siècle.
Alors, les blanchisseuses, c'est connu, les blanchisseuses, ouais. Tout autour de Bordeaux, les petites rivières étaient utilisées par les blanchisseuses pour laver le linge que confiait la bourgeoisie bordelaise. Et alors, je crois que l'eau était claire, oui. C'était pas toujours le cas, mais enfin, même maintenant, s'il n'y a pas trop eu d'orage, oui. L'eau qui passe, elle est claire.
C'était beaucoup moins urbanisé qu'actuellement.
Oui, forcément.
Ce moulin, finalement, il va avoir une troisième vie au 21e siècle maintenant.
Mais attends, tu vas trop vite là, parce qu'au 20e siècle quand même, il faut, moi je trouve qu'il faut répéter qu'il a été racheté par la mairie de Canéjean quand même.
Il a été, oui, alors il a été racheté. Il a été racheté à la mairie de Canéjean alors qu'il était complètement en ruine. Il n'y avait plus de toit. La maison du Meunier n'avait pas plus de toit non plus, et même une partie des murs était partie. Et au milieu du moulin, dans l'espace qui est celui du moulin, il y avait des gros arbres. Donc quand la mairie a eu acheté le moulin, il a fallu d'abord qu'elle fasse nettoyer pour pouvoir faire quelque chose.
Disons, entre la période où le moulin, le château ont été abandonnés et même squattés, il y a eu ensuite reprise de ce domaine par une famille de Bègles, monsieur et madame Sartou, qui ont remis en état, qui ont replanté le vignoble, et c'est seulement après qu'ils aient vécu là une 10-15 ans, je ne me souviens plus exactement, que la mairie a racheté cet ouvrage.
Ah oui.
Ah, il vivait dans le moulin.
Non. Je pense qu'il voulait. Voilà,
j'ai dit le moulin et le château.
Le château, oui. Ils ont remis en état le vignoble.
C'est ce qui a permis sûrement que le moulin ait été, enfin pas classé, mais soit devenu propriété communale, et qui est, ça s'appelle maintenant le parc du Val de l'Aubourde. Donc je suppose qu'ils ont également nettoyé tout autour et mis en valeur tout le site.
Tout à fait, parce que je me souviens, j'ai vu le moulin avant qu'il ne soit tout à fait abandonné. Il n'était plus en activité, mais il y avait encore toutes les portes, toutes les fenêtres. Mais ensuite, comme ça a été abandonné, tout s'est effondré et il n'y avait plus rien. Mais alors, le moulin a quand même été utilisé par une... Enfin, le logement du moulin, du meunier a été utilisé par une famille qui squattait l'endroit. Personne ne lui a donné l'autorisation, mais il ne dérangeait pas trop. On l'a laissé là, tranquille, pendant... Il y est resté quelques années.
Oui, parce qu'il y avait une maison construite en face du moulin de Rouliac. Et oui. Le meunier et sa famille y logeaient.
Oui. De l'autre côté de l'Aubourde, là, il y avait un bâtiment qui était assez grand, d'ailleurs. Il avait bonne allure, dont il reste quelques aperçus par des photos, mais qui montrent que c'était pas n'importe quoi. Et ça permet aussi de poser la question, où habitait le meunier? Parce que sinon, on se demanderait où est-ce qu'il aurait pu vivre.
Oui. La mairie de Canéjean a donc racheté et a complètement restauré ce moulin. On a aperçu tout à l'heure, dans la première pièce, il y a quand même quelques objets traditionnels.
Alors, si vous voulez, la mairie a eu plusieurs choses à faire pour récupérer le moulin. Il y avait eu un certain nombre de crues qui ont fait que l'Aubourde avait débordé. Alors l'Aubourde, pas le Bief, mais l'Aubourde avait débordé et l'eau avait emporté la terre qui tenait le moulin. Ce qui fait que l'Aubourde a fait une déviation et créé une nouvelle vallée. Alors la première chose qu'a fait la mairie, c'est de reconstruire un barrage pour que l'eau vienne au moulin, parce que sinon l'eau il venait pas au moulin, il passait directement dans l'Aubourde qui est plus basse. Si vous regardez bien, vous voyez qu'il y a une belle différence de niveau. Et ça, c'est pour le moulin qu'on l'a fait.
Maintenant, des projets sont en cours pour mettre en valeur à nouveau le moulin de Rouliac, avec la sensibilisation aux énergies renouvelables.
Voilà, oui. Oui. Alors, Monsieur Mercier, vous allez me dire si c'est exact, mais a priori, donc la mairie de Canéjean, on le sait, a un projet de faire de ce lieu éventuellement un petit centre de recherche et de mise en pratique de tout ce qui est un peu énergie renouvelable.
Il y a l'eau, mais il y a aussi, voilà, donc ce serait pour produire un peu d'électricité, ce serait avec un but d'éclairage, avec, voilà, il y a un certain nombre, ou pour, même pour alimenter un petit réseau, enfin voilà, c'est ça l'idée de fond, et ça c'est mis en pratique, enfin c'est commencé déjà, il y a une étude qui est faite par des étudiants de l'IUT de Bordeaux, et il y a eu toute une promotion l'année dernière qui a travaillé sur ce thème, enfin, sur ce projet, et ça va être poursuivi là, dans l'année qui vient avec une nouvelle promotion, parce que les étudiants, ils disparaissent assez vite finalement, d'une année sur l'autre, donc il faut qu'il y en ait d'autres qui prennent le relais, et c'est ce qui est en train de se mettre en place.
Oui, alors ce qui me semble facile à faire, c'est de récupérer l'énergie de l'eau.
Oui.
Mais si on veut faire fonctionner le moulin pour qu'il produise de l'électricité, ça coûtera plus cher que de ne rien faire du tout. Mais enfin, c'est possible, oui. Ça c'est possible. Oui. Alors, ensuite, l'énergie éolienne, là, il faut monter haut et c'est une opération un peu particulière dans, par rapport à un moulin à eau.
D'accord, oui.
Si c'était un moulin à vent, c'était plus facile.
L'idée, c'est de faire quelque chose au niveau de ce qu'on peut inventer comme nouvelle source d'énergie, quoi, hein. Donc, c'est un travail autour de ça, quoi.
Oui. Les projets sont quand même assez modestes, on va dire. Si il y a un projet d'hélice mobile d'une éolienne, faire un éclairage public d'une rue à partir d'une centrale hydraulique, c'est vraiment des petites touches, voir que c'est possible en pratique.
Enfin, moi, j'espère quand même qu'ils ne vont pas... Il ne va pas y avoir des pylônes et que le moulin gardera tout son charme quand même sur ce site magnifique. Il y a des arbres partout, il y a de l'herbe, il y a un petit pont.
Il est d'ailleurs très fréquenté, même en semaine. Les cyclistes, les joggeurs le traversent, les familles viennent respirer l'air pur, les chiens courent autant qu'ils veulent.
Et c'est peut-être l'occasion de dire qu'il est ouvert aussi deux samedis par mois, le deuxième et le quatrième samedi du mois entre avril et octobre, par un accordeur qui est aussi un artiste peintre et qui vient prendre toute sa journée du samedi de 10h du matin à 18h pour peindre et qui donc ouvre il ouvre le moulin, il accueille tous les gens qui viennent, il lui arrive de recevoir jusqu'à 80 personnes. Donc il y a du monde qui passe parmi les joggeurs et les gens qui se promènent, les promeneurs.
Bon, bien, nous allons vous remercier, Madame et Monsieur Mercier, pour cette promenade instructive.
Tant mieux qu'elle soit instructive. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens de Canéjan qui ne connaissent pas.
Nous avons été charmés de participer à votre travail. Qui suppose des recherches et une préparation intéressante.
Merci beaucoup à tout le monde. Merci à Laurent, qui est notre rédacteur en chef de tout Bordeaux et que vous n'entendez pas, mais qui est bien présent. Il nous guide et on le remercie beaucoup.
Et à bientôt, cher tout Bordeaux-Notes.
À bientôt.
À bientôt.
À bientôt. Mais oui, bien sûr.
À bientôt. Pour de nouvelles pépites.
À bientôt à Canéjan, si vous voulez.
Tout Bordeaux, écoutez, vous avez la parole.